L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Et ce matin, nous sommes en compagnie du directeur général de Lagoon. Bonjour Stéphane Matteo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors que cette semaine, vous avez communiqué un mois et demi après la cyberattaque dont vous avez été victime et qui a pénalisé aussi plus ou moins des milliers de Calédoniens. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait avec précision ce qui s'est passé le dimanche 18 août ?
Maintenant, avec le recul, oui, on a une idée, une bonne idée de ce qui s'est passé ce 18 août. Ce 18 août, on a été cyberattaqué par un ransomware, un rançon logiciel en français. Une organisation, un organisme cybercriminel a pénétré en utilisant une faille de vulnérabilité sur un de nos équipements, notre infrastructure. Par cette porte dérobée, ils ont chiffré, encrypté des serveurs, aussi bien des serveurs Lagoon que des serveurs de clients professionnels que nous hébergeons.
Donc concrètement, ils volent les données, ils les cryptent pour qu'on n'y ait plus accès et ils demandent une rançon pour récupérer les données.
C'est le mode opératoire classique d'un ransomware, oui.
Et quand vous dites sur des infrastructures, c'est-à-dire que c'était un matériel qui avait une faille de sécurité ?
Exactement, c'était notre pare-feu. Comme tout équipement informatique, il y a des mises à jour logicielles à faire. Ces mises à jour couvrent la plupart du temps des vulnérabilités qui sont découvertes au fil du temps, donc du cycle de vie de l'équipement, que ce soit pour un téléphone ou un équipement industriel. Donc notre pare-feu, à ce moment-là, avait une faille de vulnérabilité. Et entre le moment où la faille est annoncée et la mise à jour de cet équipement, il y a une fenêtre d'intervention sur laquelle les cybercriminels s'engouffrent.
Donc parce que finalement, ils ont toujours un temps d'avance sur les gentils, on va dire ?
C'est toujours comme dans la vie réelle, on court après les méchants.
Vous parlez d'une organisation. Est-ce qu'on sait aujourd'hui d'où ça vient, cette cyberattaque ?
Non, personnellement, non. Il y a toujours une enquête en cours. C'est une enquête conjointe entre la police nationale et la gendarmerie nationale. En tant que victime, je n'ai aucune idée, géographiquement, de l'organisme, du type d'organisme qui nous a attaqué.
D'accord. Donc là, on le sait, ça peut être finalement juste des cybercriminels qui veulent récupérer de l'argent, ça peut être aussi une tentative de déstabilisation. Enfin, toutes les pistes sont possibles aujourd'hui ?
Toutes les pistes sont ouvertes. Bien sûr, j'ai mon opinion. La cybercriminalité là-dessus, c'est un business, c'est un marché. Donc, il y a de fortes probabilités que ce soit plutôt... à des fins pécuniaires que politiques.
Alors, ce n'est pas arrivé n'importe quand. Est-ce que vous avez été ciblé parce que vous étiez déjà fragilisé par les émeutes ? On le sait que vous avez eu un certain nombre de matériel détruit dans le plexus, par l'incendie du plexus. Est-ce que vous avez été ciblé pour ça ?
Oui. C'est un cybercriminel ne tape pas à chaque porte, ne fait pas du porte-à-porte. C'est une attaque ciblée. Ils ont énormément de possibilités de victimes. Ils se renseignent sur des contextes économiques, politiques, de zones géographiques. En fonction de la fragilité de cette zone-là, ils vont commencer à sonder quelles sont les cibles potentielles. Nous, Lagoon, on a perdu le plexus. Le plexus n'était pas seulement l'endroit où nous avions un bureau et une boutique, mais aussi notre salle de secours. Donc nous avons perdu notre secours. Donc on était une cible assez bien désignée pour leur attaque.
Pour que les gens comprennent bien, c'est quoi ? C'est en gros toute la sauvegarde de Lagoon qui était à cet endroit-là ?
Alors, la semaine d'après le 13 mai, nous avons perdu toute notre sauvegarde. Enfin, quand on effectue toujours deux sauvegardes, une sur deux sites distants, c'est le but, et une à froid, c'est-à-dire non connectée au réseau, bien sûr, qui était au plexus. Donc, nous perdons cette première sauvegarde. Donc, il nous reste notre sauvegarde sur le site principal, qui est ailleurs. Et dans l'urgence, on décide d'effectuer une autre sauvegarde à Paris, donc chez un opérateur en métropole. Lors de l'attaque, ils ont chiffré notre sauvegarde locale, mais ils ont eu le temps, cette attaque a été préparée, ils ont eu le temps d'analyser nos flux, les flux de sauvegarde, donc voir que le trafic sortait du territoire pour être sauvegardé. Donc ils ont préparé et ils sont remontés jusqu'à notre sauvegarde parisienne, ils l'ont effacée. Donc ils nous ont laissé vraiment avec aucun moyen de retournement le jour J.
Donc entre le 13 mai et le 18 août, il y a tout un temps de préparation. Ça dure combien de temps de préparer une attaque comme ça, aussi ciblée, aussi minutieuse ?
J'ai des idées, je dirais quelques semaines, quelques jours. Je ne suis pas ciblé, je suis pas dans ce business. Mais ce que nous savons, c'est que les traces plus anciennes avant l'attaque ou après coup, il y a une phase d'investigation, de forensique, où on essaie de déceler des moindres... données laissées par le cyberattaquant remontent à 4 semaines avant l'attaque, mais on suppose que c'était bien plus vieux que ça. Il faut savoir qu'aussi que ces serveurs de log où on a toutes ces données datées ont été détruites pendant l'attaque. Donc ils n'ont laissé aucune empreinte, si on veut, derrière.
Alors Stéphane Matteo, vous êtes un spécialiste des télécommunications. Vous aviez déjà vu une attaque d'une telle ampleur dans votre carrière ?
Dans ma carrière, non. J'ai une carrière qui est un peu plus d'un quart de siècle maintenant. C'est le plus gros événement que j'ai eu à gérer.
Et en Nouvelle-Calédonie ? C'est... Parce qu'il y avait déjà eu des cyberattaques.
Il y a déjà eu des ransomware. Nous, c'était la troisième. Les deux avant, on est passé sans problème. On les a traités. Donc, pas besoin de divulguer. Qui étaient des types d'attaques assez classiques par phishing. C'était passé en interne avec une erreur humaine rectifiée. Personne n'a entendu parler. Celle-là, elle était extrêmement bien préparée. Je sais que d'autres grosses entreprises ont subi des types d'attaques, mais n'ont pas eu autant de dégâts que nous. Donc je pense, non, on est le numéro un sur l'impact.
Alors justement, côté impact, on le sait, les clients ont été parfois privés d'Internet. Il y a aussi eu les boîtes mail qui ont été hors service un certain temps. Très rapidement, vous avez essayé de mettre en place des choses pour rétablir les services. C'était votre priorité ?
C'était exactement ça. Dans le mode opératoire de restauration de l'entreprise, les boîtes mail, par exemple, qui a pris 2 semaines pour que ce service soit remis en place, on ne peut pas juste le restituer tel quel. Il y a toute une phase de vérification, d'analyse. On ne veut pas remettre un service avec une porte dérobée pour les cyberattaquants afin qu'ils reviennent. Donc on a toutes des étapes préliminaires avant une remise en service, d'où les 2 semaines nécessaires avant que nos abonnés puissent réaccéder à ce service.
Et vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là, Stéphane Matteo ? Parce que je suppose que priver ses clients de boîte mail, c'est quand même essentiel pour un certain nombre de services. Aujourd'hui, on passe tous par notre boîte mail pour beaucoup de choses. Vous vous sentiez comment de priver les Calédoniens de ces boîtes mail, d'être contraints, hein, malheureusement, parce que vous êtes la victime, vous l'avez rappelé.
Oui, on est victime et dans ce lot, on entraîne nos clients avec nous. Mais comment on se sent ? C'est très simple. Déjà, le premier jour, on crée une cellule de crise. Donc, on se met dans une bulle, on doit traiter un problème. Moi, je faisais partie de cette cellule de crise. Donc j'ai délégué complètement cet aspect relation clientèle à mon directeur commercial à ce moment-là, qui a fait un excellent travail. Le principe, l'humain, l'émotion est soustrait de soi pendant cette attaque, pendant la résolution de l'attaque. Donc c'est après-coup, je ne suis pas encore dans l'après-coup. Peut-être que dans une semaine, je ressentirai les effets.
Ouais, vous êtes dans un aspect vraiment technique, il faut rétablir au plus vite les services, savoir ce qui s'est passé et surtout que ça ne revienne pas.
Exactement. Nous sommes dans la phase de reconstruction maintenant, c'est-à-dire qu'on est en mode opérationnel. Nous avons tous nos services disponibles, mais nous mettons en place des étapes supplémentaires sur la cybersécurité, aussi bien qu'elles soient au niveau humain, matériel ou de la prévention, de la sensibilisation vis-à-vis de nos abonnés. À ce moment-là, toutes ces étapes-là doivent être enclenchées. Nous avons pour jusqu'à fin janvier des travaux sur ce chantier.
C'est extrêmement long, fin janvier. Enfin, c'est une longue période qui s'ouvre pour reconstruire. C'est nécessaire aujourd'hui ?
C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que toutes les étapes, et nous sommes accompagnés par l'Agence nationale de la sécurité système d'information, l'ANSSI, à Paris, sur lequel nous suivons leurs préconisations et recommandations. C'est extrêmement long, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas protégés. Nous sommes bien meilleurs maintenant qu'avant l'attaque, mais nous avons décidé d'aller bien au-delà de ce jalon. Nous avons décidé de suivre la directive NIS 2, qui est une directive européenne sur la cybersécurité, qui n'est même pas encore mise en place en métropole. Elle est mise en place au milieu de ce mois-ci, même dans toute l'Europe. Donc, toutes ces étapes nécessitent énormément de préparation, de choix et de mise en production.
Alors justement, vous avez été accompagné, vous le disiez, par l'ANSSI. Il y a eu des experts envoyés aussi sur le territoire, c'est-à-dire si l'attaque a été prise réellement au sérieux, à la fois par la GUN et puis par aussi les autorités nationales.
Les autorités territoriales et nationales ont pris très au sérieux cette attaque. L'ANSSI a dépêché cette équipe, mais dès le premier jour, ils étaient avec nous, dès le 18 août. Le jeudi, les 4 personnes étaient arrivées sur le territoire pour nous aider avec leur expertise. Et leur travail a été phénoménal. Il nous a fait un bond vers l'avant sur la résolution. Ils avaient des techniques que nous ne possédions pas, une compétence que nous ne possédions pas pour nous aider à nous relever.
Et donc, ils vous permettent aussi aujourd'hui d'augmenter votre niveau de sécurité de manière considérable.
Exactement. Ce sont des experts en la matière. Ils traitent des victimes de ransomware tous les jours. Ils ont un mode opératoire, ils sont rodés et ils sont sur des veilles technologiques de cybercriminalité, de la connaissance de la cybercriminalité que que nous ne possédions pas.
Alors Stéphane Matteo, on le sait, on est tous vulnérables face au risque de la cybercriminalité dès qu'on est connecté à Internet, dès qu'on a un appareil électronique finalement. Aujourd'hui, il y a cette question de la confiance aussi des clients. On se dit, mais si mon fournisseur d'accès à Internet peut être piraté, voilà, il y a aussi cette confiance à regagner auprès des clients. Et c'est important pour vous de montrer cette sorte de label, de dire on est à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en matière de cybersécurité.
Alors, on va le faire très simple pour nos abonnés, parce que je les remercie déjà. Donc, beaucoup ont apporté leur soutien, leur fidélité. On a eu deux impacts cette année, en trois mois d'intervalle. Nous avons perdu notre outil de secours, nos bureaux. Nous avons une cyberattaque, donc nous avons une attaque physique et une attaque virtuelle. La Goon s'est relevée les deux fois. Et quand on se relève de cet événement, soit on se relève dans l'état, mais on est rattaqué dans la foulée, soit on se relève plus fort. Et on a décidé de se relever beaucoup plus fort. Donc la confiance, on l'a acquis avec des années vis-à-vis de nos abonnés. Ils ont certainement un doute maintenant et on va leur prouver qu'ils peuvent toujours avoir confiance en nous.
Mmh. Et aujourd'hui, personne n'est à l'abri. C'est vraiment le message aussi que vous faites passer.
C'est exactement ça. Il faut imaginer que le monde virtuel est comme le monde physique. On peut se protéger de tous les cas de figure. On est toujours exposé à un risque. Le risque zéro n'existe pas. Donc, de ce constat, on met tout en place pour rendre la tâche extrêmement compliquée. Mais tout le monde est susceptible. À partir du moment où on est sur Internet, à partir du moment où on utilise un équipement électronique connecté à l'Internet, des failles de sécurité, des vulnérabilités sont exposées.
Est-ce que les gens en ont suffisamment conscience, que ce soit effectivement les particuliers dans leur pratique du quotidien ou alors les entreprises calédoniennes? Est-ce qu'elles ont suffisamment conscience de ce risque qui aujourd'hui est accru?
De plus en plus. Comme j'ai dit, je suis toujours dans ma bulle de la cellule de crise, donc j'ai échangé avec des entreprises territoriales, mais pas énormément. Je dois faire un retour d'expérience avec eux prochainement. Mais de plus en plus, nous sommes conscients de cette cybersécurité à mettre en place. Il y a même une cyberacadémie qui avait été mise, dont les premières briques ont été mises en place il y a un ou deux années par Open. Donc, cette conscience industrielle ou professionnelle, elle y est. C'est plus dans le monde du résidentiel où il faut insister sur de la sensibilisation.
Est-ce qu'aujourd'hui, je le disais, une pression accrue, est-ce que c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie est une cible privilégiée? C'est ce que vous avez constaté, vous, après cette attaque sur la Goon?
On est une cible privilégiée comme d'autres cibles privilégiées. C'est-à-dire le contexte fait qu'on est une cible comme d'autres parts du monde. Ce n'est pas juste la Nouvelle-Calédonie. Il faut comprendre que depuis notre attaque, il y a eu deux autres attaques sur la Calédonie qui ont fait beaucoup moins de dégâts, donc ils sont passés à peu près sous le radar. Mais pour échanger avec l'ANSSI assez régulièrement, ils ont des dossiers tous les jours qui leur arrivent dans les mains. Et ça, ce sont juste sur le territoire français. Mais Internet n'a pas de frontières.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Stéphane Matteo d'avoir fait un point avec nous sur cette attaque de la Goon. Donc, on le rappelle, pour l'instant, phase de reconstruction jusqu'à janvier.
Oui, là.
C'est ça. Et en attendant, donc, vous dites, on peut avoir confiance.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous.